Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors pour aujourd'hui, d'abord bonjour à Jean-Sébastien Laliberté qui me fait face, qui est à la technique et qui va être avec nous dans le questionnement de nos invités.
Bonjour.
Bonjour, j'aime quand tu fais comme ça, là ça fait belle voix de basse. Notre chroniqueur aujourd'hui, mais que nous aurons au téléphone car il est en vacances, c'est Jamin Chtouki pour sa chronique Le Courrier des Auditeurs. Je le sais, je me doute que certains d'entre vous ont déjà peur de ce qu'il va dire. À moi aussi, ça m'arrive. Sauf que restez avec nous parce qu'après, dans la deuxième demi-heure, on va recevoir Antoine Nicolas qui est chercheur d'algues et fondateur de l'entreprise Océan de Saveur. On va en savoir plein sur ces petites choses que sont les algues. Alors, ça t'intéresse, Jean-Sébastien ?
Absolument.
Pas d'y mettre le pied dessus, mais peut-être d'en manger.
Plus que de nager, de me faire surprendre par une algue dans l'eau.
Alors, avant d'appeler Jamin, on va écouter Ben Oncle Saul, qui sait être un homme comme vous. Un lien, pas un lien, on verra. Scop died up and bed, scop it doom doom doom. Je suis le roi de la danse, oh la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, Poupidou, je voudrais marcher comme vous. Et parler comme vous, faire comme vous tout. Un singe comme moi, pourrais-je croire être parfois bien plus humain que vous. Yeah. Oh, 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 oh. Pourtant, crois-moi bien, je suis pas dû si je marchande avec vous. C'est que je désire le moyen d'être un homme, un point c'est tout. Dis-moi le secret pour être un homme, est-ce vraiment si mystérieux? Pour moi faire éclore la grande fleur rouge, ce serait merveilleux. Oh. Superbe chanson. Bonjour Jamin Chtouki.
Bonjour Arlette.
Ça se passe bien tes vacances?
Écoute, ça se passe bien. Nous sommes tranquilles en famille, effectivement.
Nous, on ne va pas l'être complètement parce que tu as fait une chronique.
Oui.
D'un auditeur et Jean-Sébastien rit avant et moi je suis pas sûre de rire ou peut-être jaune, mais vas-y, qu'est-ce qu'on t'a écrit cette fois?
Tu vas rire, mais alors c'est un problème d'homme.
Ah, déjà ça fait peur.
Et donc avant toute chose, je dirais que je suis très très content d'être avec vous aujourd'hui, hein, car comme je suis au téléphone, parce que je suis en déplacement, pas professionnel, non, familial de vacances, comme tu l'as précisé, grâce à la PCR. je rigole, bien entendu. Et je vous écoute donc à la radio, et ça fait un auditeur de plus cette semaine.
Bravo.
Champagne. Ah, nous sommes montés. Ouais. Nous sommes arrivés à une bonne quarantaine maintenant.
Ah, c'est bien ça. Alors qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un problème d'homme.
Oui.
Donc, j'ai Marie-Claude à Laval.
Bon, salut.
Pardon, de Laval. Parce que vous avez un esprit mal tourné, vous avez mal... oui, donc de Laval, qui m'écrit. Bonjour Jama, j'apprécie fortement votre chronique et vos conseils. Vous allez pouvoir m'aider. Je suis marié depuis 32 ans. 32 ans. Wow, ça, c'est des champions du monde de la longévité. C'est des acrobates, là. Ou alors, c'est qu'ils font chambre à part. Donc, 32 ans, donc. Et depuis le début de notre mariage, mon mari a des problèmes pour pisser correctement. Il en fout partout à chaque fois. Alors, pouvez-vous donner des conseils et des explications sur ce problème d'homme? Merci beaucoup. Et oui, le problème des gouttes partout, hein, et qui ne concerne que les hommes. C'est les hommes doivent penser qu'elle est trop longue et qu'ils ne peuvent pas s'avancer un petit peu. Hein. Car en effet, les femmes, ne mettent aucune goutte, elles. Non. Et ça, c'est parce qu'elles trichent. Oui.
Qu'est-ce que c'est agréable au moment de midi d'avoir une chronique là-dessus? Mais pourquoi?
C'est pas ma faute, c'est le courrier des auditeurs.
Pourquoi trichons-nous, Jamin?
Alors, j'y arrive. Oui, les femmes trichent car elles font pipi assises. Et là, vous me direz...
Rien ne t'empêche de faire la même chose.
Ouais. Voilà, donc à faire pipi assis. Et là, je réponds jamais! Au grand jamais! On a déjà lâché sur beaucoup de sujets, mais ça, jamais! Un homme, ça fait pipi debout, fier, digne devant l'arbre, les yeux dans les branches. Notre plus grand plaisir à nous les hommes, c'est d'écrire notre prénom dans la neige.
Oui,
imaginez, on est là comme ça, et puis
pas quand tu t'appelles Jean-Sébastien.
Oh merde, j'ai plus d'encre. J'aurais dû boire plus de bière. Non mais c'est fou ça. C'est fou comme les femmes du monde entier chicanent leur gars avec ça. Mais là, il faut que cela cesse. Il est grand temps de rétablir la vérité, la vraie. Car oui, ce n'est pas nous, les hommes, qui mettons des gouttes partout. Non, ce n'est pas nous. C'est la physique. Mais ça, la physique, vous, les femmes, ça vous dépasse. Oui. C'est donc le théorème de Pythagore. Démonstration. L'homme fait pipi debout. Bon, jusque-là, tout le monde suit. Mais oui. Pendant ce temps-là, la Terre, elle tourne. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des gouttes partout. Moi, quand je commence à pisser à Montréal, je finis à Halifax. Mais si on y réfléchit de plus près, si on pense aux pauvres Chinois, ils sont en dessous, à l'envers. Et quand ils pissent, ça va dans leurs yeux. Ils en ont plein la face. Parce que vous imaginez qu'ils sont jaunes par hasard.
Oh, quelle horreur.
Et la femme du Chinois, elle le prévient tout le temps. Hein? Elle l'engueule comme nous, là. Hein? Qu'est-ce que t'as encore foutu? T'as encore mis des gouttes au plafond? Pourtant, je t'avais prévenu. À chaque fois que tu vas à la toilette, mets la casquette. Alors, à force de se faire tanner par nos blondes, eh ben, nous, les hommes, on devient un peu désagréables, moins gentils, chiens, quoi. C'est pour se venger de toutes les remontrances que vous nous faites sans arrêt. Tiens, par exemple, la semaine dernière, ma femme est venue me voir et elle me dit « Oh, chérie, je me sens pas bien, je me sens moche, grosse, vieille, j'aurais besoin d'un compliment. » Et je lui ai répondu « T'as une bonne vue.
» Heureusement que je sais que c'est pas vrai.
Où il y a un mois, elle est venue vers moi toute contente en me disant « Chérie, tu as vu, j'ai perdu 11 livres !» Et je lui ai répondu « Ne te retourne pas, ils sont derrière toi. » Oui, je sais, c'est chiant.
Allez, blague potache.
C'est ça, mais c'est en représailles à toutes les fois où vous nous chicanez pour les gouttes sur le bol de toilette. De plus, il y a une explication physiologique avec ça, c'est qu'avec l'âge, on a la vue qui baisse. Si, on a la vue qui baisse. Avec le temps, nous les hommes, on a aussi les pectoraux qui tombent. Et ça devient une bedaine. Et on la voit plus. Et c'est pour ça qu'on en met partout. Car avec le temps, plus le tambour avance, plus la baguette recule. Un jour, Un jour, une de mes amies en a eu marre. Elle a sorti son mari du lit et l'a traîné jusqu'à la toilette. Oui, elle est bûcheronne, elle a la force pour ça, elle. Et là, elle lui a fait remarquer toutes les gouttes qui traînaient autour. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a explosé la tête dans la toilette. Ensuite, elle a rabattu le bol de toilette sur la tête. On aurait dit un touriste américain avec une casquette. Et quand on se connaîtra mieux, je vous dirai où elle a enfoncé la brosse. Comment? Comment est-ce possible qu'on n'arrive pas à pisser dedans, hein? Parce que les femmes, elles font comment pour ne pas mettre de gouttes, hein? Elles font comment pour viser juste? Elles font du parachutisme? Ce sont les snipers du pipi? Alors oui, 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 certains hommes pissent assis. Si, si, assis.
Oui.
Assis. Mais ce n'est pas une victoire du féminisme. Attention. Ah non, 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 ce n'est pas une victoire du féminisme, non. C'est une victoire de l'iPhone. Essayez de manipuler votre cellulaire à une main tout en tenant votre zizi et en visant la toilette de l'autre. C'est une mission impossible pour l'homme. Oui, oui. Parce que déjà, un homme est incapable de faire deux choses en même temps.
Ça, c'est
alors,
vrai.
Surtout avec sa bite, hein, elle lui prend tout son sang. Alors, pour finir, s'il vous plaît, messieurs, pour ceux qui pissent toujours debout, faites un petit effort quand vous pissez. Essayez de le faire au milieu. Et quand vous avez fini, essuyez les gouttes et par pitié, pensez à votre femme, abaissez le bol de toilette, bordel.
Alors, Germain Stucki, le retour.
C'est moi-même.
Alors, d'abord, je tiens à rassurer les auditrices et les auditeurs parce que, pour ce que tu as dit sur ta femme, parce que la connaissant un peu, je sais que jamais tu lui dirais des choses pareilles. D'abord, elle ne le supporterait pas et elle t'aurait envoyé quelques vannes qui t'auraient déjà mis par terre, toi aussi.
Oui. Exactement.
Donc, t'en profites pendant qu'elle tourne le dos.
C'est plutôt quelques barres, carrément.
Alors, tu es dans quel coin, au fait?
Je suis en Ontario, à Cornwall, c'est-à-dire à une heure à peu près de quart de Montréal.
De Montréal,
dans le coin des mille îles.
Est-ce que dans le même temps, tu trouves des histoires qui pourraient être des sketchs que tu crées? Et est-ce que tu en profites aussi, est-ce que tu ne fais que des vacances, ma question est là, ou bien est-ce que tu en profites aussi pour tâter un peu le terrain, voir s'il y a des possibilités de tourner, de jouer des pièces
C'est un problème avec ce métier, et puis surtout quand tu es passionné, c'est qu'il y a toujours une déformation professionnelle, quoi que tu fasses. Donc même si tu es en vacances, ben là par exemple, je regarde, j'ai trouvé, ah ben tiens, là il y a une salle, on pourrait faire un show, ah ben tiens, là il y a... Il y a une autre salle, un petit bar.
Ouais.
Oui, on est toujours, après, je ne suis pas en travail, mais c'est toujours un petit peu latent, j'en profite. Puis pas quand je vois une connerie, parce que de toute façon, j'ai toujours la connerie, c'est même en dormant. Hein, je vois pas,
mais c'est pas quand tu la vois, c'est quand tu la laisses sortir de l'intérieur de toi.
Voilà, et donc là, automatiquement, ben oui, ça draine des choses. Et puis, j'ai toujours de quoi noter, donc je note. Et puis, c'est plus tard que je travaillerai dessus, effectivement.
D'accord. Et comment ça se passe, la Comédie de Montréal continue de tourner?
Oui, il y a des choses cette semaine, ça a tourné mardi. Et puis là, c'est vendredi et samedi, c'est le spectacle Hosanna de Michel Tremblay.
Ah oui.
Qui est dans le cadre de la fierté, parce qu'on est dans la semaine de la fierté.
Oui, 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 on a eu Denis Martin pour nous parler de tout ce qui se passait aussi.
À propos de Denis Martin, il m'a fait vivre une expérience extraordinaire lundi soir. Enfin, il nous a fait... T'as pas expliqué?
Si, pour la lecture? Oui.
Oui, le grand effeuillage.
Oui, le grand effeuillage.
Voilà, ça s'est fait chez nous, et donc... Nous avons eu l'honneur et le privilège d'avoir un... Alors, le grand effeuillage, c'est quoi? C'est une lecture littéraire de textes, parfois un petit peu coquins, plutôt de la communauté LGBTQ+,
ZW47,
point d'exclamation, là. Mais la particularité, c'est que les artistes sur la scène étaient tout nus.
Oui, c'est ça.
Tout nus de chez tout nus. Et donc, c'est rigolo de voir un artiste qui te fait une lecture littéraire avec un livre à la main, mais la zouise à l'air.
Ah, c'est ce qui t'a donné l'envie du texte sur comment faire pipi.
Non, elle était déjà prévue, mais par contre, oui, c'était très rigolo de voir cela, même si c'était des textes plus ou moins sérieux. Mais on a vécu une grande expérience. Le show était interdit au moins de 18 ans, c'était pour 18 ans inclus, et c'était à 22h. Jusqu'à minuit.
Oui.
Mais, et ça vient d'un... Bon, je pense qu'il en a parlé, j'ai pas besoin de dire d'où ça vient, tout ça, les Naked Men, entre autres à Chicago, qui ont démarré cette idée. Voilà. Mais moi, je trouvais ça bien. C'est juste qu'on s'y attendait pas forcément, puis qu'elles n'étaient pas forcément très jolies. On aurait préféré qu'elles restent habillées. Une chance que les textes étaient parfois intéressants. Non.
C'est pour ce que ça exprime. Voilà.
Ouais. Non, mais c'est pas intéressant d'avoir. Alors, on parle d'hommes là, mais ça peut être fait ça la journée de la femme avec des femmes, par exemple. Mais d'avoir un artiste nu, complètement, sans aucun artifice, avec juste une lecture à faire, parce qu'à la fin, de poser la question à certains, c'est désarçonnant. Parce qu'ils se sentent complètement à nu.
Ah ben, je me doute que ça doit pas être très très facile pour eux. Hein. Franchement, peut-être pas pour le spectateur qui est là. Mais en tout cas, pour celui qui est sur scène, ça doit être oui, enfin, une sacrée performance à vivre. Je voudrais
c'est
pas
ça.
Être...
Mais les spectateurs ont bien apprécié la soirée. C'est un petit peu original. Ça a développé.
D'accord.
Je vais en parler avec Denis Martin, parce que je trouvais le concept... Là, on peut parler d'un concept intéressant.
D'accord. Ben écoute, ça se passe. Donc, il y a eu ça.
Exactement.
Et toi, oui. Tu reviens jouer quand?
Je reviens la semaine prochaine, jeudi et vendredi. Je viens jeudi avec Le Sexe pour les Nuls et vendredi, une de mes comédies préférées, L'Emmerdeuse.
Oui, ça c'est magnifique.
Oui.
C'est magnifique.
Avec ma comparse Edith, que je n'ai pas vue depuis 2-3 semaines, et où on se fait des blagues. Et puis c'est un très beau, très beau et très drôle spectacle.
Bon, bah alors moi j'irai voir Le Sexe pour les Nuls. Non pas que je me sente dans ce cas de conscience, mais c'est juste pour te voir sur scène et entendre ce que tu fais, je précise, même si j'ai pas besoin de le faire.
Oui, et puis dans L'Emmerdeuse, tu l'as déjà vu,
oui.
Tu y participes indirectement.
Oui, j'y participe indirectement, c'est vrai.
Oui, parce qu'elle joue le rôle de ma maman dans voilà. Le spectacle.
Par la voix.
Voilà, par la voix, c'est un répondeur téléphonique et c'est elle qui a fait les voix. Et c'est la maman un petit peu possessive de son fils.
Une mère juive, appelons-la comme ça.
Alors c'était très drôle pour l'anecdote, parce que pour ces deux éditeurs ne se souviennent pas, on en avait parlé, mais pour Jean-Sébastien, c'est que quand j'ai proposé ça à Arlette, elle me dit « Oui, mais je ne suis pas comédienne. » Je dis « Non, mais t'es maman. » « Oui, bon ben voilà, je vais te donner le texte, il est écrit, tu le lis comme une maman. » Oui, mais j'ai mon accent, ça va pas passer, on est au Québec. Je dis, ben, et moi, j'ai un accent, donc c'était cohérent que tu aies pas d'accent et que moi non plus. Ça aurait été bizarre si je mettais une Québécoise et puis qu'on m'entend sur scène parler comme moi et comme je parle là maintenant.
C'est vrai.
Donc, on a fait ça. Mais elle avait pas vu le résultat, elle avait juste mis les quelques phrases comme ça, mais pas dans le contexte.
Non.
Et quand elle est venue voir le spectacle, ce qui était drôle, c'est là qu'on voit qu'Arlette prend de l'âge, elle avait oublié qu'elle avait enregistré les voix.
Comment ?
Oui, ce qui fait que quand la bande son part, elle fait des grands yeux, elle part en fou rire parce qu'elle avait oublié que c'était elle et que c'était dans ce show-là.
Eh ben oui, c'est tout vrai. C'est tout vrai.
Et moi, j'étais mort de rire quand je l'ai vu, machin, et puis après, on en a jasé après. Et du coup, elle a trouvé ça génial. Et puis, en fait, ça passe super bien.
Mais oui.
Et tout.
Ça passe bien, mais c'était drôle parce que je ne l'avais pas entendu et c'est vrai que j'y pensais plus.
Donc, le vin coulait à flot quand tu as enregistré ça.
Non, on n'avait pas notre animateur du vin, mais faudrait justement tiens, qu'il revienne, ça nous ferait du bien. Eh bien, Benjamin, on te laisse continuer tes vacances. Bisous à toute ta petite famille et puis on se voit la semaine prochaine.
On se revoit la semaine prochaine. J'ai pas encore écrit de sujet, je ferai ça à mon retour, je pense.
D'accord.
J'ai 2-3 idées qui. Vais essayer quand parfois je fais un petit peu mon oncle ou un peu parfois.
Attends le courrier des lecteurs.
Je vais choisir un truc, un sujet peut-être un petit peu plus élevé, dirons-nous.
Merci pour nous.
Allez,
bye.
À la prochaine.
Bye.
Tout commence et recommence le temps de soupir. Un simple désir peut te laisser le temps de guérir. Quand tes idées deviendront lourdes, il faut croire que ça passera. Je te vois. Difficile de faire semblant d'avoir la conscience tranquille. Si les regards te rendent fou, garde espoir, ça passera. temps se perdre de vue. Tout ce qui restera se tire, se cachera derrière les promesses qu'on se fait croire tout au long de l'hiver.
On vient d'entendre Céleste Lévy qui nous chantait « Ça passera ». Oui, ça passera. Jean-Sébastien de la Liberté, es-tu prêt maintenant à élever ton esprit ? Parce qu'on va, parler de nourriture, on va parler des algues fraîches, on va parler de quelqu'un qui plonge pour aller les chercher dans l'océan. C'est magnifique.
Donc, on va élever notre esprit en allant sous le niveau de la mer.
Oui, c'est un peu comme ça que je le voyais. Et alors ? C'est obligé d'aller dans un sens?
Non,
non. On peut aller dans l'autre?
Non, tu m'embauches un coin.
C'était...
Je suis bouche bée.
T'étais resté. Ah non, ce ne sont pas elles qui vont chanter. Donc, on revient tout de suite après ça et on est avec Antoine Nicolas. Restez avec nous.
Faramineux, avec votre animatrice Arlette Farah.
Ariel, écoute-moi. Chez les humains, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont là-haut sur terre.
Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sur terre.
Bonjour, la calamité.
Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours, mieux tu pourras pas trouver.
Sous l'océan, tout, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan.
Là où il bosse toute la journée, esclavagé, prisonnier, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous les poissons se rendent la pipe, les vagues sont un vrai régal. Là-haut ils s'écaillent, ils flippent, à tourner dans leur bocal.
Le bocal faut dire c'est l'extase,
chez leur copain cannibal.
Si monsieur poisson n'est pas sage,
il finira dans la poêle.
Oh, sous l'océan, sous l'océan,
sous l'océan.
Y'a pas de bouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton.
Sous l'océan, y'a pas de chanson. On dit on pue, on fait des bulles sous l'océan.
Sous l'océan, la vie est super mieux que sur la terre. Je te le dis,
il va être toujours de l'arrêt.
Se sont lancés dans le reggae.
On a le rythme, c'est la dynamique sous l'océan.
Riton au flûteau, la cape sous la hap, la rascasse de la basse et les rois du rap. Macro au saxo, turbo au bongo, le lieu est le dieu de la sauce.
Oui. La mer au duvet, gardons au violon, sol, rock, roll, le ton, garde le ton. Le bas et le spat se bat et s'éclate, vas-y souffle mon doudou.
Sous l'océan, délivre à ses mers au rythme d'enfer sous l'océan.
les vivants nous pour donner tellement. C'est frénétique, c'est fantastique. On est en transe, donc ça balance sous l'océan.
Et maintenant, nous retrouvons Antoine Nicolas.
Bonjour, Arlette.
Des petits applaudissements pour toi, Antoine. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Mais oui, quel plaisir de t'entendre. Alors, il faut savoir que Antoine Nicolas est quelqu'un que j'ai reçu dans une autre émission il y a 2 ans en arrière. Et ça avait été un vrai bonheur. Ben là, on t'avait reçu en vrai à ce moment-là. Enfin, du moins, tu étais en présence physique. Là, tu es au téléphone. Donc, tu nous avais absolument passionnés. Alors là, on va reparler des algues et de tout ce que tu, de tout ton travail, en disant que tu es quand même biologiste de formation.
Exactement. Et que tu as agronome de formation.
Voilà. Et que tu es spécialisé dans les et la qualité, l'aquaculture et les produits de la mer.
Oui.
Et de tout ça. Alors, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Raconte, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est aller chercher des algues au fond de la mer. Et attention, mesdames, messieurs, à n'importe quelle époque de l'année, et nous sommes dans des moments où les hivers sont quand même super, super froids.
En fait, notre jardin à nous, il est sous l'eau. C'est comme ça qu'il faut le voir. Nous, on a vraiment comme un jardin, un potager sous la mer. Qu'on exploite de façon durable, même si c'est une ressource sauvage, et qu'on exploite effectivement tout au long de l'année. En fait, chaque algue va avoir sa période de croissance, donc on va pouvoir l'exploiter au fur et à mesure de nos besoins, de nos commandes. Puis on est certifié biologique, on est certifié pêche durable, puis on est également certifié éco-responsable avec les pêches vertes depuis cette année, avec la cote excellence. Donc on essaie d'aller en adéquation avec nos valeurs aussi.
Alors, qu'est-ce qui t'a intéressé? Parce qu'il me semble que ce n'était pas le métier qui était choisi au départ. Comment ça s'est passé pour toi?
En fait, moi, j'ai choisi, quand j'avais 16 ans, j'ai choisi de partir de mon entreprise en aquaculture. Puis de fil en aiguille, j'ai orienté mon parcours universitaire puis d'expérience professionnelle en conséquence. C'est sûr que dans un premier temps, on est sur la récolte sauvage, on n'est que sur les algues, mais à terme, l'objectif, c'est remettre l'aquaculture dans le portrait et d'avoir une aquaculture durable et responsable.
Qu'est-ce que c'est l'aquaculture?
L'aquaculture, en fait, c'est comme l'agriculture. On va vraiment cultiver les algues au final et pas exploiter seulement la ressource sauvage, en fait.
D'accord.
On va les faire grandir, par exemple, en bassin.
Ah, ok. Créer des bassins sous l'eau?
On serait en surface. En fait, la problématique qu'on a, c'est qu'on a des hivers qui sont très rigoureux.
Oui.
Et le couvert de glace qu'on a sur la mer peut arracher une structure en aquaculture jusqu'à 8 à 9 mètres de profondeur. C'est que ça entraîne une dynamique qui est quand même assez complexe. Et puis, ça entraîne des périodes où c'est beaucoup plus difficile d'exploiter la ressource. Donc, même si c'est de la ressource qu'on fait grandir, qu'on fait pousser, ça devient difficile d'exploiter ça en plein hiver. Donc, pour ne pas avoir cette problématique-là, puis pour pouvoir aussi contrôler la température de l'eau, puis l'ensoleillement, le plus facile, c'est effectivement de transférer un bassin.
Alors, toi, tu as créé l'entreprise Océan de Saveur.
C'est ça.
Qu'est-ce que tu ramasses? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu connaissais déjà? Parce qu'il me semble que quand on en avait parlé ensemble, du côté de ta famille, il y avait de l'intérêt pour les algues dans la nourriture depuis que tu étais petit.
C'est ça, on a toujours mangé des algues dans ma famille. Moi, ma mère, en fait, en mettait dans l'alimentation. Et puis, on a déménagé quand j'avais 14 ans sur une petite île en Bretagne. Et les algues sont omniprésentes sur cette petite île. En fait, une île, forcément, qu'on a beaucoup de littoral. Fait qu'il y avait, on cueillait les algues, nous autres, à 15, 16 ans, en boulot d'été. On allait cueillir les algues, puis on vendait ça à quelqu'un qui ramassait la récolte de tout le monde. Et puis, ça partait chez des industriels. Fait que je connaissais déjà plusieurs des espèces, en fait, qu'on a au Québec, parce qu'on reste dans le même océan. Fait qu'on a quand même 10 espèces sur 15 de mes permis qui se recoupent des deux bords.
Ah.
Fait que j'en connaissais quand même 10 sur les 15, là.
D'accord. Et tu as fait des découvertes en étant ici, des autres?
Ben, on a découvert, c'est ça exactement. Il y a plusieurs espèces où il a fallu leur donner un nom français, parce qu'elles n'avaient pas de nom français, elles n'avaient que des noms latins. Donc il a fallu leur créer des noms français, comme le corail de la Gaspésie ou le vermicelle de mer, il a fallu leur créer des noms français. C'est que c'est ça. Au début, quand on travaillait avec la restauration, les amis sur la carte des restaurateurs,
oui.
Là, on on a réduit un peu la gamme parce qu'à un moment donné, 15 espèces à pousser, c'est beaucoup.
Oui.
Fait qu'on s'est arrêté à 9.
Sur la ce qui est déjà pas mal.
C'est honnête. Là. C'est ça.
Et quels sont les bienfaits des algues? Parce que des algues, enfin, pour nous, en tout cas, pour moi, les algues, c'est une généralité. J'ai pas la notion des... Enfin, avant de te connaître, j'avais pas la notion de ce qui était quoi.
En fait, on a trois grandes familles d'algues. Pour faire simple, elles ont été classées par couleur. Fait qu'on a des vertes, on a des rouges, on a des brunes. Les vertes et les rouges, il y a beaucoup plus de protéines, en fait, quand l'algue est séchée. Donc, on parle de 30 à 55% de protéines. Donc, c'est extrêmement riche en protéines. Puis, il faut vraiment voir aussi les algues à mi-chemin entre un légume de mer, un complément alimentaire, voire un médicament. Selon les algues, ils vont aller chercher des molécules pour soigner le cancer, pour aller réguler la glycémie, pour soigner l'arthrite.
Ah oui.
Il y a énormément de propriétés qu'on peut aller chercher avec les algues. J'ai des arboristeries qu'on achète pour réguler la thyroïde, par exemple. Ça aide au développement
dingue.
Du cerveau aussi. En fait, quand on consomme des produits de la mer, on consomme de l'iode, et l'iode va être très intéressant pour le développement du cerveau puis le système immunitaire. Et quand on manque d'iode, on parle de crétinisme comme carence alimentaire. Donc, il faut absolument manger de l'iode dans l'alimentation. C'est pour ça qu'on en rajoute dans le sel de table pour pas en manquer. Et en consommant un peu plus, il y a des études qui ont été menées sur les femmes enceintes. L'enfant est plus intelligent. Le cerveau se développe mieux.
Extraordinaire! Ah ben, dis donc!
C'est pour ça qu'on disait, moi, quand j'étais enfant, manger du poisson, ça rend intelligent. Manger des produits de la mer au sens large, il y a encore plus d'iode dans les algues que dans les autres produits de la mer. Et qu'en mangeant des produits de la mer, effectivement, ça peut aider effectivement au développement du cerveau.
Alors, qu'on choisit? Ben, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ton entreprise aussi. Il y a des choix qui sont différents parce que l'algue, c'est un peu comme je rajouterais des algues, moi je rajouterais comme je rajoute des herbes, tu sais?
Oui.
C'est-à-dire...
Oui.
T'en mets un petit peu dans ta salade, t'en mets un petit peu dans tes œufs, enfin tu fais des choses comme ça. Mais en fait, ça peut. Je me souviens quand t'étais venu, t'en avais amené pour nous montrer ce que c'était. Puis il y en a d'autres. C'est vraiment l'algue solide, j'ai envie de dire, non pas en poudre.
Ben, l'algue entière, on peut effectivement la réhydrater puis la manger comme des légumes, en fait, que ce soit en salade d'algues, un peu d'inspiration asiatique ou pas. Donc simplement comme une poêlée de légumes ou vraiment pour l'algue entière, donc réhydratée. Et puis si on l'utilise effectivement en flocon, donc broyé finement, on peut l'utiliser effectivement comme des herbes séchées.
Oui, moi c'est comme je l'ai en mettant dans mes salades.
C'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de les réhydrater, il n'y a pas besoin de se poser des questions sur quelle recette faire. On saupoudre en fait, comme un assaisonnement.
Alors j'ai mon technicien en face de moi qui est en train de t'écouter hyper sérieusement et il doit se dire « mince !» Pour que je sois plus intelligent, il faudrait que je mange des algues.
Non, moi, j'ai déjà fait le raccourci. Si je veux être plus intelligent, j'ai juste à mettre plus de sel dans ma nourriture.
Non, c'est pas ça.
Ouais. Les algues vont être beaucoup plus riches en iode, en fait. Le sel, il faut faire attention à ne pas consommer trop non plus pour la tension artérielle. Mais effectivement, il y a beaucoup plus d'iode, en fait, dans les algues. Mais il faut regarder les produits de la mer au sens large. Faut vraiment, c'est sûr qu'on est plus concentré dans les algues, mais on est aussi concentré en énormément de bienfaits. Quand on utilise les algues pour remplacer le sel, par exemple, c'est aussi tous les sels minéraux qui vont être dedans qui vont saler. Si on regarde la spiruline marine ou nos rives vertes, on parle de 2700% de vos apports en fer recommandés sur 15 grammes.
Oh là là, dis donc, c'est impressionnant.
C'est que la joke en salon, là, c'est vous allez rouiller, là, vous allez avoir des taches de rousseur qui vont apparaître. C'est pas vrai, là. mais il y a vraiment beaucoup de fer, en fait. C'est le côté complément alimentaire.
Ah, c'est vraiment super.
Et de la B12 aussi, pour ceux qui veulent manger moins de viande. Il y a énormément de B12 dans la nourriture de l'Atlantique, par exemple.
Oui. Toi, tu continues, tu en as consommé toute ta vie et tu continues ta consommation là-dessus aussi.
Oui, complètement. Puis ne serait-ce que pour avoir de l'énergie, pour faire le côté physique, parce que c'est beau comme ça sur le papier, là, mais aller récolter plusieurs centaines de kilos d'algues en plongée, les sortir de l'eau, là, ça demande une bonne condition physique, là.
Ben ça, c'est sûr, d'une part. Et puis, comment ça se passe? Tu traînes derrière toi comme un genre de... je sais pas moi, un espace dans lequel tu peux mettre les algues que tu ramasses. Tu les remontes pas une par une, je pense.
J'ai un mini-zodiaque, en fait, derrière moi.
Ah, d'accord.
J'ai un mini-zodiaque qui fait 4 pieds de long. Et sur ce zodiaque-là, je peux accrocher jusqu'à 300 kilos d'algues.
Ah quand oui, waouh.
Ouais.
Ah, c'est impressionnant.
Le plus que je l'ai, c'est 420 kilos qui traînaient derrière moi, mais j'ai ramené ça sur le bord à la force des palmes. Là.
Bon, dis donc.
C'est le moteur de l'huile de coude. Là.
Quand même.
Ouais, je trouve ça impressionnant.
C'est ça. Puis le meilleur des frigos qu'on puisse avoir, c'est la mer, quand on récolte. Fait qu'il faut, on essaie de les laisser le plus longtemps possible dans l'eau de mer avant de les sortir de l'eau.
Ah oui, mais alors comment tu fais quand tu... Parce que tu plonges en hiver aussi.
Oui.
Alors quand tu les ramènes...
L'eau salée descend à moins 2 l'hiver, comme elle est salée.
Oui.
Et à moins 2, si on veut juste se représenter ça en manteau dehors l'hiver, là, c'est un équivalent de moins 50.
Oui.
Parce qu'on se refroidit 25 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Fait qu'on se refroidit extrêmement rapidement dans l'eau si on n'a pas un bon équipement.
Alors, à part l'équipement, est-ce que, selon les époques, ben justement en parlant de l'hiver, tu restes moins longtemps sous l'eau?
Oui. En fait, l'hiver, j'allais surtout récolter l'hiver pour les restaurateurs.
D'accord.
Avec la COVID, on a ralenti tout ça parce qu'il n'y avait plus assez de volume critique pour aller récolter l'hiver, pour aller récolter en fait tout court les algues fraîches. Fait que pour l'instant, on s'est concentré sur les algues séchées.
D'accord.
Pour 36 raisons, quand l'autobus a arrêté de fonctionner aussi, on n'avait plus de moyens de transport pour les petites commandes fraîches. Fait qu'on, et puis après, le temps que la restauration réouvre, c'était pas des volumes qui permettaient d'aller plonger.
Oui.
Donc on s'est vraiment concentré sur le séché. Mais l'hiver, on parle d'à peu près des plongées de 2 à 3 heures en plein hiver. Et l'automne ou l'été, on parle de 12 à 15 heures, une grosse journée.
12 à 15 heures?
12 à 15 heures, une grosse journée.
Ça fait des grosses journées, oui.
Oh
ouais, ouais.
Ah, dis donc.
Ça garde en forme. En fait, on se base sur le lever du jour. On commence avec le lever du jour tant que possible, et puis on termine avec le coucher du soleil. Puis des fois, je termine après le coucher du soleil.
Oh là là! Faut-il que tu sois amoureux? Que t'aimes ton travail pour...
Ouais, ça prend de la passion. Ça prend de la passion, effectivement. Non, c'est ça. Mais c'est aussi le concept de faire rimer passion et profession. Là. C'est aussi le concept de faire ce qu'on a envie de faire. Là. C'est fallait le vouloir créer sa job en plein hiver en Gaspésie. Là.
Oui.
C'est... Il a fallu... Ouais, ça a pris beaucoup d'efforts. Mais je veux dire, on paye le résultat de 9 ans, presque 10 ans de travail maintenant. On travaille avec plus de 300 points de vente à l'échelle du Québec. On a un point de vente avec qui on travaille aux États-Unis. Et puis, on attaque gentiment le reste du Canada. Et puis, on est également sur la restauration avec... on travaille le Canada au complet sur la restauration présentement. À cause de la pandémie, on a élargi aussi, on est sorti davantage du Québec.
Oui.
Et puis, on livre aussi directement les particuliers avec la boutique en ligne.
Ben oui,
dans un contexte de crise, solidarité... On a ouvert notre boutique en ligne à d'autres producteurs du Québec. Donc, on a plus de 400 produits disponibles qu'on livre directement chez les clients.
Oh, ça, c'est un beau geste. Alors, ça c'est chouette aussi.
On travaille comme c'est ça. Bien. L'objectif, c'est de... En travaillant ensemble, on va plus loin. Là.
Mais alors, ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment sûr. Et dans toutes les sphères de ce qu'on vit, d'ailleurs, on fait plus loin. Comme c'était grosse journée, parce que là, aujourd'hui, est aussi une grosse journée... Et qu'on te prend du temps, parlons un peu d'un océan de saveurs. Donc, puisque t'en parlais à l'instant, tu offres moult différents moyens d'acheter des algues et puis des offres sur des choses comme par exemple, attends, qu'est-ce que je voyais ? Je voyais que tu as mis cette année un produit nouveau, les algues à la fleur de sel.
Oui.
Mmh. Ça me donne l'eau à la bouche.
On a testé ça cette année, effectivement. Là. Fait que là, on est en train de structurer ça aussi pour qu'il y en ait dans les boutiques aussi. Là. On a un distributeur avec qui on travaille sur ce volet-là qui s'appelle Passion d'ici, justement, qui met en avant les produits locaux dans les assiettes des consommateurs. Et on est en train de structurer ça là, pour travailler avec sa clientèle de 1000 points de vente là, à travers le Québec. Là.
Alors moi, je vais avoir de mon côté une réflexion complètement fille, même s'il y a des gars qui s'intéressent aussi. C'est que j'ai lu que ça aurait également un effet coupe-faim.
Les algues?
Oui. Alors,
en fait, on a les varech et guémonoir vont avoir des fibres qui vont gonfler dans l'estomac, puis qui vont donner une impression de satiété, justement, on a assez mangé. C'est qu'effectivement, on a cet effet coupe-faim sur ces deux espèces-là en particulier, à cause de leurs propriétés en fibres.
c'est celle que j'achète. Donc celle-ci, ouais, faut les refaire. On les achète séchées et puis faut les remettre dans l'eau pour les refaire vivre un petit peu.
On les achète en flocons, normalement elles sont plus que disponibles en flocons maintenant.
Ah d'accord.
Fait qu'en les mettant directement dans les plats, effectivement, elles sont très marines par contre en termes de saveur, mais elles vont vraiment aider à couper la faim ou à moins grignoter entre les repas aussi. Là. Faut le voir aussi comme ça.
Ben oui, parce que c'est comment on appelle ça? Je viens de lire des aliments que contient les algues, le kombu royal, l'allié minceur, ouais, c'est ça que j'étais en train de dire.
Oui, entre autres, le kombu royal, effectivement. En fait, il y a le côté fibre de goémon noir et varech, mais il y a aussi le côté l'iode, parce que en fait, l'iode va donner de l'énergie au corps. D'une certaine mesure. En fait, ça va augmenter le niveau d'énergie, donc ça va augmenter aussi le brûlage de graisse. Fait que pour ce côté-là, effectivement, les graisses vont être beaucoup plus facilement éliminées avec l'iode parce que ça booste le métabolisme, ça booste le système, en fait. Autant au niveau immunitaire qu'au niveau énergie.
Et alors, ben ça, c'est merveilleux. Je vais faire ma liste dès que j'aurai raccroché avec toi. Les algues, dis-moi, les algues qui viennent de la mer, et les algues d'eau douce, elles ont quoi comme différence, si elles sont différentes?
Il y a des différences. Je les connais beaucoup moins, les algues d'eau douce, en fait, pour être honnête.
D'accord.
Mais il y a des différences. On peut retrouver des algues vertes en eau douce aussi. C'est sûr que en temps normal, en eau douce, on en retrouve moins. On va surtout voir des végétaux qui vont donc avoir des racines, parce que les algues n'ont pas de racines. C'est que le meilleur moyen pour savoir que c'est une algue, c'est qu'elle n'a pas de racines. Elle va s'accrocher à une roche, mais ce ne sera pas une racine, ce sera vraiment un crochet. Mmh. Donc, souvent, quand on trouve beaucoup d'algues dans les lacs, c'est parce qu'il y a une surpopulation autour, ou il y a trop de rejets qui vont faire qu'il va y avoir une problématique au niveau de l'environnement, de trop d'apport en azote en particulier.
Waouh! Alors, il faut savoir qu'un océan de saveur, c'est le seul producteur d'algues au Québec qui est certifié fourchette bleue.
Oui. Alors, on était le seul, ça a changé cette année.
Ça a changé cette année, d'accord.
Cibiosis qui vient de se faire certifier fourchette bleue, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y en a d'autres. En fait, en tout cas, Cibiosis, de toute façon, achète nos algues. Donc, c'est les produits de Cibiosis, c'est des produits avec dans lesquels vous retrouvez nos algues aussi.
Oui.
Fait que la démarche est quand même la même, on va dans un sens d'éco-responsable. Bon, l'objectif, c'est pas de scraper la ressource sur laquelle on est assis.
Bah oui.
Moi, si je fais de la coupe à blanc, si je détruis l'environnement, je détruis mon entreprise.
Oui, tout à fait.
C'est ma logique, là. Mais je veux dire, on peut aller beaucoup plus loin pour faire rimer écologique et économie. Là. S'il y a quelqu'un qui jette un déchet dans la nature, à un moment donné, ce déchet-là, il va se retrouver sur notre pas de porte.
Là. Je veux dire,
on veut-tu vraiment vivre dans une cour à scrap?
Non. Non, pas du tout. Pas du tout.
Pourtant, il y en a beaucoup qui ne font pas encore la réflexion.
Je sais. Donc, on recherche océan de saveur. Et pour terminer, dans les deux petites minutes qui nous restent avant de te laisser repartir travailler, tu plonges à combien de mètres?
Moi, je peux plonger à 80 pieds, donc 25 mètres en apnée. Après, ça, c'est pas dans mes conditions de travail. Ça va être vraiment sur un côté apnée sportif.
Oui.
En conditions de travail, on est plus dans le 2 à 4 mètres.
D'accord.
Et puis, je peux rester 5 minutes 30 au fond de l'eau.
Ah, bah dis donc!
J'ai deux poumons intégrés, fait que deux bouteilles intégrées, fait qu'autant que je m'en serve.
Eh ben écoute, c'était super. J'ai encore une fois grand plaisir à discuter avec toi. Puis j'espère qu'un de ces jours, on se reverra ici.
Avec voilà. Les salons, là, les événements ont l'air de se remettre en marche. Là.
Ah, ça serait
là,
trop cool.
Donc, on en fait à Gaspé. On fait le marché public de Gaspé là depuis quelques semaines. Et puis, on va refaire le Salon des artisans à Québec et le Salon des métiers d'art aussi, très probablement.
Bah écoute, quand tu fais ça, tu me fais signe. Et puis, on se reparle. Merci mille fois, Antoine. Antoine Nicolas, merci.
Beaucoup.
Puis, bonne continuation à toi. Bravo. Et n'oubliez pas, Océan des saveurs. Voilà.
Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil.
Bye.
Depuis qu'un soir, dans un coin de France, j'ai vu dans l'ombre tes yeux immenses. Mon cœur est enfin plein d'espérance et je pense à toi le jour et la nuit. Mais notre langue n'est pas la même. Et enfin pour te dire que je t'aime, je ne sais pas de plus beau poème que cette phrase de mon pays. On va mieux te chier. Please let me explain. Your
regret. Bannir Mestichet veut dire en amour, oh chérie, je suis à toi pour toujours. J'aurais voulu pourtant te le dire tout en français, mais j'ai le cœur battant et c'est en vain que j'essaie. Comment t'expliquer, Bamir Mestichet? Kiss me and say you understand. Before, but let me try to explain. About me, this to shame means that you'll grant. About me, this to shame, cela signifie que tu es pour moi plus que la vie.
Alors, on vient d'entendre Lili T qui nous chantait. Alors, je vais essayer de le dire. Bamir Mestichet.
Pas loin. C'est pas loin. Bamir Mestichet.
Mestichet. Bravo.
Ton allemand s'améliore de jour en jour.
J'ai quand même essayé. Mathieu, si tu nous entends. Je parlerai bientôt allemand. Bon, on n'en est pas encore là. Et c'était passionnant, hein.
Moi, j'ai très hâte de pouvoir déguster des algues à la fleur de sel. J'en ai littéralement l'eau à la bouche.
Ah ouais, mais écoute, ça fait envie. Lorsque l'année où il était venu, quand je l'avais reçu ici à la radio, donc il nous avait même amené du chocolat fait avec les algues. Alors ça, c'était absolument extraordinaire. Et on avait goûté des choses. Et depuis, c'est depuis lui d'ailleurs que je mets des algues en flocons dans mes salades. Sinon, avant lui, je ne le faisais pas. Donc, merci beaucoup. Allez voir, c'est vraiment une belle entreprise, Océan de Saveurs. Il y a plein de choses qui vont vous donner l'eau à la bouche et qui sont excellentes. Et comme c'est bon d'en avoir, d'en manger tout le temps, ben voilà.
Et on rappelle qu'il ne faut pas faire le raccourci. Ce n'est pas le sel qui est bon, c'est l'iode.
C'est l'iode. Hein. Attention. Alors, passez par les algues et non pas par un trop plein de sel en disant « Je l'ai entendu à la radio, il faut que j'en mette beaucoup plus. » Jamais nous avons dit ça.
Ils nous ont dit « Les chips, c'est bon pour la santé. » Ce n'est pas vrai.
Dis-moi, Jean-Sébastien, est-ce que tu penses qu'on remercie jamais Stouki? Bon...
Est-ce qu'on devrait dans quel sens le remercier, là, tu veux dire?
À lui dire, allez, à ciao, ne reviens plus jamais. C'est comme ça que tu le pensais? Non, merci, Jamin, passe de belles vacances et puis reviens-nous la semaine prochaine. Et puis merci à toi, Jean-Sébastien, pour la technique et puis pour les chansons. Et quant à vous toutes et vous tous, eh bien, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Au revoir et bonne journée.